Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La surenchère des prix des biens de consommation sur le marché face à la justice. De plus en plus, on assiste impuissant à la flambée des prix sur le marché. Chacun, au nom soit du libéralisme économique, soit de l'anarchie, fixe le prix de ce qu'il vend. Certains biens de consommation sont vendus sans aucune référence au tableau tarifaire qui n'est plus d'affichage dans les commerces, surtout dans les bars. Qu'est-ce qui peut justifier la hausse vertigineuse des prix des biens de consommation sur le marché? Comment se porte aujourd'hui le panier de la ménagère?
Qu'est-ce qui est à la base du faible pouvoir d'achat des populations? Que veut le libéralisme économique en RDC? Est-ce que chacun ou chacune ne peut fixer les prix à sa guise et verser dans le libertinage ou l'anarchie? Comment s'est fait la nomenclature de prix des biens sur le marché? Quel est le rôle de la justice et de l'État dans tout cela? Quelles solutions peut-on préconiser? Voilà la problématique qu'aborde le magazine de promotion de vos droits et devoirs.
Droit et citoyenneté est coordonné par Jeff Ngoyi et co-présenté avec Vanessa Kongolo. Bienvenue à tous.
Surenchère des prix de biens de consommation sur les marchés face à la justice. Pour commencer, nous vous proposons ces reportages de Jean Andou sur la problématique de la hausse des prix de maïs dans le Haut-Katanga, où un sac de farine de maïs se vend actuellement à 90 000 francs à certains endroits dans la ville de Lubumbashi, alors qu'il y a quelques jours, il revenait à 50 voire 80 000 francs. Entre-temps, le gouvernement provincial continue à disponibiliser la farine de maïs au prix de 20 000 francs les sacs de 25 kilos, mais la quantité est loin inférieure aux besoins exprimés par la population.
La situation de la farine de maïs devient de plus en plus intenable à Lubumbashi, explique cette dame qui visiblement est désemparée.
Vous voyez, il y a deux jours, un sac de farine revenait à 65-70 000 francs et deux jours après, je me rends compte qu'un sac revient à 85-90 000 francs. Et avec ça, une augmentation de 20 000 francs en à peine deux jours. Comment voulez-vous qu'on puisse nourrir nos familles? En tout cas, c'est une situation qui nous dépasse, qui nous met vraiment mal à l'aise. C'est vraiment intenable, insoutenable. On ne peut même pas encourager ça. On se demande dans quel katanga est-ce que nous vivons. Parce que ce n'était pas comme ça avant. Un sac de farine revenait à 10 dollars. Et aujourd'hui, nous voulons l'acheter à presque 50 dollars. C'est vraiment impossible. Il faut que les autorités se penchent sur cette situation et qu'ils trouvent urgentement une solution.
Qu'en est-il de la farine de maïs commandée par les importateurs qui étaient partis en Zambie voisine pour négocier avec les autorités de ce pays? Edouard Soumaïli, président de l'Association des Congolais opérant à l'étranger.
Les 100 000 tonnes qui ont été octroyées par le gouvernement zambien, jusque-là, nous n'avons pas encore obtenu le permis d'exportation pour cette farine-là. Si les autorités nationales peuvent s'impliquer afin que nous puissions récupérer les 100 000 tonnes que nous avons déjà négociées.
La farine qui a été achetée en Afrique du Sud, beaucoup de camions sont bloqués à Kazungura parce qu'ils doivent être escortés par les agents de la douane. Parce que nous, c'est la marchandise en transit. Les autorités, tant provinciales que nationales, sont informées. C'est ainsi que avant-hier, on a dépêché certains gens de l'ambassade de Lusaka. Ils sont à Kazungura, je pense. Quelques tracts commencent déjà à quitter.
Les Lusons ne caressent qu'un seul rêve, voir le prix de cette denrée alimentaire principale baisser. Et pour cela, ils comptent sur la récolte de maïs qui pourrait intervenir très prochainement. Qu'en est-il alors de cette récolte? Jean Moussangampiri, président de l'ONG Maman Espoir du Congo, qui encadre le petit agriculteur bénéficiaire de la subvention du gouvernement provincial du Haut-Katanga.
La récolte de maïs dans la province du Haut-Katanga, précisément la ville de Lubumbashi et ses environs, ça commence normalement au mois de juillet. Là, le maïs est déjà sec, l'humidité est à 0%. Mais de fond, nous le faisons précocement parce qu'il y a le feu de brousse, il y a le volet à tout moment. Nous le faisons au mois de juin, donc entre les 15 ou les 20 juin, là nous commençons déjà la récolte. Donc la population okatangaise va garder son mal en patience parce que ce n'est pas aujourd'hui que le prix de maïs peut baisser le prix. Il faut attendre dès que nous, les agriculteurs, on va commencer à récolter. Et là, ça peut permettre qu'il y ait stabilité des prix du maïs. À son regard, nous comptons justement du gouvernement provincial. Ils peuvent le faire parce que chaque année, ça n'a toujours été comme ça. Il y a la farine que le gouvernement achète de l'Afrique du Sud, de Tanzanie, de la Zambie, pour pallier un peu à cette situation. Et comment les prix haussent toutes les années dans la ville de Lubumbashi, pour ne pas dire la province de Haut-Katanga, c'est le nombre de consommateurs est plus élevé que nous, les agriculteurs. Nous demandons que nous soyons très nombreux, 50% des agriculteurs, 50% des consommateurs. Vraiment, nous pouvons terminer ces problèmes complètement et correctement.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Comment joindre les deux bouts du mois face à cette flambée des prix? Jeff, avons-nous interrogé la femme ménagère sur cet aspect de choses?
Absolument, Vanessa. Rendons-nous à présent à Bukavu, dans le sud Kivu, où Madame Mireille Mirembe Tassi se penche sur la situation du panier de la ménagère.
Au fait, à part là de panier de la ménagère ces jours, nous sommes asphyxiés par la flambée vertigineuse et continue des prix des denrées alimentaires. Les sites Kivu, notamment la ville de Bukavu, s'approvisionnent en 60% en or Kivu, en denrées alimentaires. Et la situation sécuritaire très préoccupante qui découle des affrontements de rebelles M23 et l'armée congolaise, les FARDC, n'est pas sans conséquence sur le coût des vies des habitants du Sud Kivu. Et du coup, nous assistons à la hausse très exagérée du prix des denrées alimentaires. Et ceci, nous pouvons dire au grand regret de la population de Bukavu d'une manière particulière, mais aussi de toute la province du Sud Kivu. Pourquoi toute la province du Sud Kivu? Parce que même à l'intérieur de la province du Sud Kivu, ils commencent à s'approvisionner dans la ville, et étant donné qu'ils sont en insécurité continue causée par les groupes armés, et du coup ils ne savent pas accéder à leurs champs pour aller cultiver, et donc ils trouvent mieux de pouvoir s'approvisionner à ville, ce qui est tout à fait anormal. Parce qu'en principe, les aliments devraient provenir de l'intérieur, parce que c'est là où il y a les champs, les cultivateurs, etc. La population du Sud Kivu, qui consomme régulièrement certains produits venant du Nord Kivu, notamment les haricots, la pomme de terre, les farines de manioc, de maïs, les poissons salés, les poissons fumés, le fromage, les oignons, pour les citer que ça. Le prix a presque doublé de ces denrées que je viens de citer là. Et nous observons, par exemple, 25 kilos de haricots qui se négocient entre 17 et 20 dollars. Aujourd'hui, ce 25 kilos est négocié entre 35 et 40 dollars. Un kilo de pommes de terre qui coûtait 800 francs. Aujourd'hui, ces kilos se négocient autour de 1500 francs congolais. Nous observons sur plusieurs marchés, notamment les marchés de Bichimwanzi, les marchés de Nyawera, les marchés de Feu Rouge, Kadutu, et nous trouvons que les constants est vraiment amer. Du côté des marchands, leurs produits ne s'écoulent presque pas, et selon leurs témoignages, les produits s'écoulent à compte-gouttes. Nous pensons que cette situation est due du fait des prix qui ont pris l'ascenseur. Et du coup, si par exemple vous achetez 25 kilos, vous êtes obligé de prendre la moitié, parce que même si les prix au prix de l'ascenseur, Mais pour les salariés, les salaires ou la prime restent la même. Donc, au lieu de prendre 25 kilos, on est obligé de prendre 10 ou 12,5 kilos, ce qui revient, ce qui découle de vos avoirs. Nous soulignons aussi les routes qui sont considérées comme les routes des recettes agricoles pour la ville de Goma, donc les routes qui relient les Goma et les greniers de la ville, ils sont presque quasi inaccessible à cause de l'occupation par les rebelles du M23. C'est pourquoi nous, comme société civile, nous suggérons que les gouvernements puissent mettre fin à cette guerre nous imposée, et cette guerre qui n'est pas sans conséquences. Et voilà, nous assistons à la flambée des prix à cause de cette guerre. Nous recommandons également aux services habilités de pouvoir réglementer les prix au marché, de pouvoir jeter un coup d'œil dans ce secteur. Parce qu'il y en a certaines personnes qui profitent de l'occasion pour doubler les prix, même si les prix d'achat n'est pas exagéré. Mais comme il y a cette situation de la guerre, ces marchands en profitent pour fixer les prix selon leur gré. Et pourtant, s'il y a une réglementation dans ces secteurs, les prix, c'est vrai, seraient élevés, mais pas d'une manière exagérée.
Bébé, mototo à Shaba, kamata nusu. Lakini uache nusu. Kiria. Yvonne Mbombo, Bibi l'oiseau rare, ça l'inga vraiment nini. Bibi,
Olivier, ça
International, toute la ville en parle depuis Yasatena. Parle noir,
pas
et des mises en
Malé. Modogo Botekola. Rami Amisi. Alain Soudi. Petit Kissa.
Surenchère des prix de biens de consommation sur le marché face à la justice, nous en parlons dans Droit et citoyenneté. Suivez maintenant les analyses de l'Union pour la défense des droits des consommateurs du Congo, ICODEM, avec son secrétaire général Jean-René Kibao.
En tant que structure qui défend les consommateurs ici au Congo. Votre question autour de raisons qui justifieraient la flambée de prix. Et actuellement, nous n'avons plus le panier de la ménagère, nous avons le sachet de la ménagère. Vu la situation actuelle, la flambée de prix a trois raisons. Nous avons d'abord la fluctuation du taux de change, c'est-à-dire la valeur de la monnaie locale, le franc congolais, baisse par rapport au dollar. Et les économistes sont bien placés pour nous le dire parce que cela est dû essentiellement à l'absence de la production locale. Ici, on ne produit rien de particulier d'important. Nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire tout ce que nous utilisons en termes de services, en termes de biens, sont essentiellement provenant de l'importation. Tandis que quand il faut importer, vous n'avez pas importé avec les fonds congolais. Vous devez importer avec notamment le dollar. Et ça pose problème. Et c'est ça l'une des premières raisons. La deuxième raison, ce sont les dépenses. Nous avons connu une période où l'État a payé essentiellement les arriérés salariales, assez important. Ensuite, l'État effectue beaucoup de dépenses pour l'entretien ou bien la gestion ou encore pour s'occuper des institutions. Il y a eu des dépenses qui n'ont pas une conséquence directe sur la production de l'économie nationale. Ce sont des dépenses qui gèrent les trains de vie de l'État, qui doivent s'occuper des ministres, de la présidence, et ainsi de suite. Il y a aussi évidemment, les dépenses liées à la guerre de l'Est. Nous avons une guerre de l'Est. La petite cartouche coûte et l'entretien des troupes. Tout cela font qu'on se retrouve sur le marché avec la flambée des prix. En ce qui concerne le faible pouvoir d'achat de la population, je ne pense pas que cela est dû à la situation actuelle. Hein, depuis un certain temps, nous avons une économie en crise. Et la conséquence de la crise, l'État n'est pas en mesure de bien rémunérer les travailleurs. Vous avez un salaire minimum au Congo qui avoisine à peine 100 dollars. Et comment pouvez-vous organiser votre vie avec 100 dollars? Si vous devez louer une maison, si vous devez s'occuper des études des enfants, et si vous devez acheter des biens de consommation et consorts, vous voyez que déjà par le salaire minimum, le pouvoir d'achat est très faible. Par rapport au libéralisme économique, au Congo aussi, l'État n'impose pas les prix. Dans le libéralisme économique, au niveau de notre pays, nous avons la loi numéro 18, base de 21 juillet 2000, relative à la liberté de prix et à la concurrence. Si l'État donne la liberté de prix, cela est donné aux commerçants, à ceux qui exercent une activité économique. Ils ont la liberté de fixer les prix, évidemment dans les conditions que j'ai compris. Donc, ils tiennent compte des impératifs du marché, notamment de la loi de la vigilance. Donc, ils peuvent fixer les prix libres. C'est ça l'aspect du libéralisme économique. Maintenant, vous posez bien la question.
chacun peut-il, il peut fixer, fixer librement les prix, non ? Il y a des conditions qui sont bien préparées par la loi. Mais évidemment, ceux qui ont l'impression qu'il y a une libertinage, il n'existe pas dans la loi congolaise une homologation préalable. C'est-à-dire lorsque le commerçant fixe son prix et son bien, qui va, il n'obtient pas une autorisation préalable. Le contrôle est a posteriori. Moi, je fixe mon prix selon les besoins du marché et l'État vient contrôler le caractère licite, le caractère régulier de mon prix après, pas avant. Et c'est ce qui pose essentiellement un problème. Mais on ne fixe pas les prix comme on veut. Il y a des structures de prix. Il y a ce qu'on appelle la marge bénéficiaire. Il y a une marge bénéficiaire qui existe. Par exemple, les produits industriels, c'est 20%. Les produits artisanaux, c'est 25%. Si je prends l'exemple des médicaments importés, en gros, c'est 20%. En détail, c'est 33%. Donc, il y a réellement des conditions, mais les commerçants fixent les prix librement et l'État vient contrôler a posteriori. Hein. Voilà un peu. Et la loi exige en fait que les prix puissent être réels ou sérieux. C'est ça le terme. Comme disait l'article 272 du Code civil livre 3, on parle d'un prix qui doit être réel ou sérieux. Mais on ne donne pas le détail de cela. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et lorsque vous voudriez savoir comment c'était la nomenclature des prix, je pense que vous voulez dire comment est constituée la structure de prix. Hein? Voilà, donc il y a une structure de prix, il y a des éléments qu'on prend en compte. Il y a la masse bénéficiaire dont on est venu de parler. Il y a par exemple le droit des douanes pour les produits importés. Il y a les redevances. Quand vous importez des produits, on paye certains sujets de l'État, le CCE, le FPI, le GFN, le CVN. Hein? On tient compte des frais de transit, les taxes d'importation, le coût de transport, lorsque les marchandises quittent Matadi ou d'un point à un autre, les frais de manutention, les frais bancaires, hein, tout ça entre et ça vous permet d'avoir un prix déterminé qui doit être, je le répète, réel ou sérieux. Mais le pouvoir public ne fixe pas le prix. Les commerçants fixent le prix en tenant compte de ces éléments et le pouvoir public vient après tout simplement faire un contrôle a posteriori, un contrôle après. Votre question est importante. Quel est le rôle de la justice et de l'État face au désordre de l'État? Le rôle de la justice et particulièrement de l'État, c'est d'appliquer la loi. Le parquet, le ministère public, recherche les infractions. On doit tout simplement vérifier si les commerçants qui ont la liberté de fixer les prix ont respecté la loi. En vérifiant si les prix sont réels, si les prix sont vrais. Et il y a des infractions qui sont tout autour de la fixation de prix chez les commerçants, ce qu'on appelle la pratique illicite de prix. Il y a le commerce triangulaire.
Après l'ICODEM, nous recevons à présent Alki Tengue, économiste et stratège qui analyse également cette problématique et en propose de pistes de solutions.
La première des choses qui justifie les perturbations des prix sur le marché congolais, c'est déjà le caractère des biens que les gens consomment. Nous parlons là de la ville de Kinshasa en grande partie, parce que la géométrie des prix sur l'étendue de la République n'est pas la même. Et à Kinshasa, la plupart des gens consomment des biens qui viennent de l'étranger, malheureusement. Et ça fait que nous devenons très malheureusement sensibles aux fluctuations de la parité entre le dollar et le franc congolais. Et donc, à partir du moment où, pour des besoins de base, pour des biens de première consommation, de première nécessité, vous dépendez de l'extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur induit un choc localement. Ça peut être des chocs réels au niveau de l'économie des pays qui nous envoient des biens. Ça veut dire qu'en fait, il y a des variations de prix déjà au départ. Tout comme ça peut être de la spéculation qui est simplement liée à des incohérences dans la logistique ou dans la distribution. Encore une fois, ça peut même être des actes criminels d'origine politique ou pas.
Qu'est-ce qui est à la base du faible pouvoir d'achat des populations?
Le faible pouvoir d'achat de la population est lié aux choix politiques, plutôt des choix de politique publique. À l'époque, sous l'influence du FMI et de la Banque mondiale, on a poussé la République démocratique du Congo à maintenir une politique des bas salaires. À partir du moment où les gens ont des bas salaires, par définition, leur pouvoir d'achat, quel que soit le bien qui est mis en concurrence, est très faible. Si à cela s'ajoute l'augmentation des prix, bien sûr, il y a une grosse compression sur leur pouvoir d'achat. La réalité, c'est que la qualité des performances individuelles est très faible, liée à la formation qui n'est pas adéquate, mais également à l'environnement général. Nous sommes un pays pauvre et très malheureusement, tant que l'économie n'est pas performante, et cela est dû aussi à la qualité de ces hommes, il sera très difficile que les gens aient un pouvoir d'achat important. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix que de tourner le dos à la pauvreté pour être en mesure d'embrasser un enrichissement intensif, et l'enrichissement intensif n'est valable que lorsqu'il est distributif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les croissances que nous connaissons, qui sont liées essentiellement au secteur minier et donc à grand usage de capitaux ne sont pas nécessairement ce qu'il faut. Aujourd'hui, le porteur de la prospérité partagée, c'est les PME, et très malheureusement, il y en a très peu en République démocratique du Congo, et heureusement que des activités comme celles liées à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, peut-être aussi les marchés publics, devraient être des véhicules que l'État congolais met à la disposition du chef de l'État qui veut avoir dans ce pays des hommes riches congolais, mais également une classe moyenne dynamique.
Que veut le libéralisme économique en RDC ?
Le libéralisme économique est une notion complètement dépassée. Aujourd'hui, on n'est plus dans un système figé. Et lorsqu'on est un pays comme le nôtre, la situation est que l'État doit pouvoir jouer le régulateur de toute façon, sinon les commerçants véreux vont écraser les citoyens. Nous sommes dans une situation où l'État doit continuer à intervenir. Pas totalement, mais il doit pouvoir être en mesure d'intervenir, pour être en mesure de pouvoir donner du service, y compris là où les privés n'arrivent pas. Je donne un exemple élémentaire. Nous sommes à un taux de pénétration inférieur à 6-7% dans le secteur financier, bancaire particulièrement. À quel moment pensez-vous et à quelle échéance pensez-vous que les privés vont aller dans le secteur rural où se trouve 80% de la population si les 20 dernières années, ils n'ont pas pu le faire? Et là, il faut donc que l'État assure la pénétration des services financiers qui, eux, vont réveiller l'économie et qui vont permettre à la partie arrière de notre pays à pouvoir s'intégrer et être en mesure de participer à l'économie du pays. Et donc, certaines théories qui sont écrites dans les livres ne correspondent pas du tout aux solutions que nous sommes censés donner à notre situation.
Comment s'est fait la nomenclature de prix des biens sur le marché?
On a deux catégories de prix. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les prix non régulés. Ça sous-entend qu'en fait, ils subissent les règles du marché, la concurrence parfaite. Et généralement, c'est les prix des biens de consommation courante. Mais en fait, après, il y a ce qu'on appelle les biens stratégiques, comme les produits pétroliers, comme le ciment et bien d'autres. Dans beaucoup de pays qui se prennent en charge, on fait en sorte que tout le monde accède à ces biens de manière régulée. Chez nous, même les produits pétroliers qui sont des produits réguliers, on se retrouve dans une asymétrie incroyable entre les villes et entre les villes et les milieux ruraux. Vous allez remarquer par exemple que le sac de ciment qui coûte 10 dollars ici, à Chabunda il est à 80 dollars, à Mbujima il est à 40 dollars, à Cabinda il est à 50 dollars, et c'est ce genre de choses qui ne marchent pas. Vous prenez les produits pétroliers, ils sont à 1 dollar 15 à Kinshasa, ils sont à 2 dollars et demi à Mbujima, ils sont à 5 dollars au Sankuru. Et c'est ce genre de choses sur lesquelles l'État doit être en mesure d'avoir une politique publique responsable qui soit équitable et qui permette que les gens aient de l'initiative partout. À côté de ça, certains pays qui reconnaissent l'injustice qu'a subie une partie de la population, en l'occurrence rurale, mettent en place ce qu'on appelle les politiques asymétriques qui puissent permettre justement que les non-privilégiés aient des avantages pour être en mesure à la fois de faire face à leurs besoins, mais aussi pour être en mesure d'attirer des acteurs économiques dans ces milieux de manière favorable afin de pouvoir y inséminer une économie stimulée.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
les analyses de l'Union pour la défense des droits des consommateurs du Congo, ICODEM, avec son secrétaire général Jean-René Kibao.
En principe, un opérateur d'économie ne peut pas être en même temps grossiste, en même temps semi-grossiste, en même temps détaillant. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a un commerçant, il est en même temps grossiste, il est en même temps détaillant, il est en même temps semi-grossiste. Ça, c'est en marge de la loi. Il y a la rétention de stock. Vous voyez, un commerçant véreux garde la marchandise pour créer la rareté des marchandises sur le marché pour que les prix augmentent. Il y a aussi les détentions illicites des marchés et des produits. Il y a les défauts de facturation. Donc, lorsque vous vendez, il faudrait absolument remettre la facture. Il y a la non-publication de prix et de documents commerciaux, la non-transmission des suscrits de prix. C'est-à-dire, le commerçant, lorsqu'il fixe le prix, il doit transmettre, notamment au ministère de l'économie, il doit leur transmettre sa structure de prix. Par exemple, il dit, par exemple, telle histoire, je le vends à 10 dollars, et dans les 10 dollars, ma marge bénéficiaire, c'est 2 dollars, les frais de douane, c'est 2 dollars, les frais de taxes, c'est autant, et ça donne tel prix. Voilà un peu ce qui doit arriver. Mais l'État doit contrôler. L'État doit contrôler. Quelle prévoit la loi en cette matière? Je viens de le dire. Hein? La loi existe, notamment la loi que je venais de dire, numéro 18, base 029 juillet 2018, relative à la liberté des prix. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils communiquent leur structure de prix au niveau de l'État. Néanmoins, le contrôle est a posteriori, hein, et il y a des infractions liées à la fixation de prix que l'État doit.
Bon. Lorsque vous voudrez savoir quelle solution préconiser, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions structurelles, des solutions organisationnelles, et il y a des solutions législatives. Dans les solutions législatives, nous, par exemple, nous estimons pour défendre les consommateurs, le contrôle de prix ne doit plus être a posteriori parce que ça pose problème. Parce que vous contrôlez le prix après que le prix ait été déjà fixé. Je pense qu'on doit trouver un mécanisme pour que le contrôle soit antérieur à la fixation de prix. Le commerçant doit transmettre leur structure avant et voir la faisabilité de ce contrôle. Nous estimons que sur le plan organisationnel, le ministère de l'économie montre des failles à cela. Nous pensons qu'il faut créer une structure telle que une autorité de régulation de prix, par exemple, une structure qui soit capable de suivre, parce qu'apparemment le ministère de l'économie est dépassé. Et ensuite, l'État doit savoir investir, l'État doit savoir gérer les fonds publics, réduire le train de vie de l'État, des institutions, c'est très très important, et investir dans des projets qui peuvent booster la production locale. Par exemple, les routes des déserts agricoles qui doivent être construites. Pour arriver à Kwamout ici, à deux pas de Kinshasa, c'est par voie fluviale. Tandis qu'il y a une route qui existe, il suffit de le réhabiliter. Vous comprenez? Nous ne sommes pas contre qu'on construise des immeubles, c'est très bien, mais il faudrait privilégier des investissements qui permettent une production locale, une industrialisation locale. Ce sont les solutions, et un contrôle permanent et une communication. Parce que parmi le droit fondamental des consommateurs, il y a le droit à l'information. L'on doit informer. Voilà un peu ce que je peux dire.
They all to gold, and that there is no easy way. No, you just can't run away. And what we had was so much more than we ever had before. And no matter how I try, you're always on my mind. So
la surenchère des prix de biens de consommation face à la justice. Pour en savoir davantage, nous recevons un haut magistrat émérite, Nicolas Kedi Simba, s'entretient à ce sujet avec Jeff Ngoy.
Eh bien Vanessa, il s'appelle Nicolas Kedi Simba. C'est haut magistrat émérite. Il analyse avec nous cette problématique de la surenchère des prix face à la justice. Comment faire face à cette surenchère des prix? Que fait la justice face à ce désordre des prix sur le marché?
Vous posez là une question très importante et je crois que beaucoup de gens seront contents d'apprendre ce que nous allons dire ici. Je vais d'abord vous faire voir qu'on parle de la surenchère. Quand les opérateurs économiques imposent aux consommateurs des prix qui dépassent le moyen de ces consommateurs, ce qui fait que le consommateur qui est obligé d'acheter le minimum nécessaire pour sa survie dépense plus que ce qu'il a et il verse dans les détournements, dans le vol, dans les abus de confiance, dans les escroqueries et même dans le banditisme. Et ce phénomène peut même amener la révolte parce que ça provoque une violation certaine des droits de l'homme. Donc quand vous avez le vôtre qui a besoin de manger, mais vous n'avez pas le moyen qui puisse vous permettre de faire face à l'achat. Vous avez un malade, vous arrivez à l'hôpital, sans parler du fait que l'État ne prend plus en charge les frais médicaux, mais vous arrivez à l'hôpital, les prix qu'on vous impose, les tarifs qu'on vous impose dépassent tout entendement. Et du moment que vous êtes obligé de vivre au-dessus de vos moyens, il y a déjà la surenchère. Parce que ça dépasse la normale. Même vous, quand vous avez votre véhicule, quand vous arrivez à la station, on a beau nous dire que l'État se plaît, tout ça. Mais est-ce que le prix du carburant suit les salaires qu'on donne aux Congolais pour qu'ils puissent se mouvoir, aller au service revenir, aller faire les affaires revenir? Tout ça, c'est ce qu'on appelle surenchère. Et je sais que vous allez me demander les causes. Les causes de la surenchère, La réalité de notre pays est que nous ne produisons pas. Même quand l'État verse sur le marché, au moyen des traités, des salaires des gens, tout ça, une importante masse monétaire, il y a toujours surenchère parce qu'il n'y a pas équilibre entre l'offre et la demande. Les gens détiennent plus d'argent qu'il y a de produits à acheter. Alors, quand c'est un individu qui vend du maïs dans toute une commune, il va fixer le prix de son choix parce qu'il y a rareté. Mais par contre, il y a de l'argent de l'autre côté. Donc, il n'y a pas équilibre entre la masse monétaire et la production. Si notre pays produisait, nous pouvions avoir les moyens financiers qui allaient trouver la contrepartie dans les produits. Mais chez nous, les gens peuvent produire. Parce que je peux vous dire qu'en l'an 2000, j'ai voyagé de Guémena à Badoulit. J'ai voyagé aussi, j'ai fait le trajet de Bumba à Badoulit. Je suis arrivé quelque part où les véhicules ne passaient même pas. Les gens avaient du maïs abîmé parce qu'il n'y avait personne qui pouvait acheter ce maïs. Donc il nous faut des routes, il nous faut aussi les moyens d'évacuation, de bien que les paysans produisent, parce qu'on n'avons pas d'agriculture industrielle, mécanisée. Les tracteurs que nous avons, c'est très peu de tracteurs. Et je me demande même en quoi consiste la tâche du ministère du développement rural et de l'agriculture, même de la pêche. Donc, vous trouvez les gens qui produisent mais qui ne savent pas comment évacuer leurs biens. Et vous trouvez ces gens qui sont dans la misère noire parce qu'il leur manque de l'argent. Alors là, c'est sur le plan technique, la production. Nous ne produisons pas, mais nous avons besoin de biens qui sont rares. Comme ces biens sont rares, ce qui est rare devient cher.
Ça relance la question sur la responsabilité de l'État.
Justement, vous savez que tout ce que nous disons ici, nous ne faisons que tirer sur la sonnette d'alarme. C'est un SOS que nous lançons à l'endroit de l'autorité.
Qui ne fait rien.
Oui, moi je vous dis, quand vous voyez, pour que vous puissiez comprendre, vous voyez quand on nomme quelqu'un, il est ministre, on fête. Mais moi je crois que quand on me nomme à la tête d'un ministère, je n'ai pas le droit de fêter, mais je dois m'inquiéter. Est-ce que je serai en mesure de répondre aux attentes de l'homme qui m'a nommé, aux attentes de la population? Parce que quand on m'a nommé, la population attend quelque chose de moi. Mais je vous dis, chez nous ici, on ne connaît pas la notion du stock. Je vais vous donner un cas. Un jour, les gens avaient déjà acheté du ciment qui était à Kinshasa. Mais il y a eu un problème à la cimenterie de Lukaye. Mais je vous dis, dès que la radio Okapi en a fait état, le lendemain, le prix du ciment a augmenté. Mais est-ce que c'est normal? Non. Pourquoi c'est augmenté? Parce que les agents des affaires économiques ne font jamais leur travail. Vous les trouvez même dans des petits marchés ici, en train de prélever les taxes. Les taxes qui n'entrent jamais dans la caisse de l'État. Mais en principe, tout opérateur économique, quand il achète un produit, avant que le produit n'entre dans le dépôt, on va contrôler les dépôts. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le dépôt. Et après avoir constaté ce qu'il y a dans le dépôt, on voit c'était acheté, à quel prix, il avait payé quelle taxe, et on détermine le prix de revient. Et à partir du prix de revient, dans tout libéralisme économique, la marge bénéficiaire est de 20%. Mais au Congo démocratique, la marge bénéficiaire est de 300-500%. Alors maintenant, quand il y a renouvellement de stock, il a acheté d'autres produits. On sait combien il a amené dans son stock, à quel prix il avait acheté. Ça, c'est le prix d'achat. Et maintenant, le prix de revient, c'est quel prix? C'est toutes les taxes auxquelles il a fait faire. Il a dû faire face pour amener le produit dans son dépôt et éventuellement au point de vente.
La surenchère des prix de biens de consommation face à la justice, on écoute une fois de plus Alki Tengi.
Dans notre pays, et c'est le choix de l'État, en plus de la liberté que l'on accorde aux opérateurs économiques à pouvoir marger et donc déterminer leurs prix, il y a une inspection du ministère de l'économie et c'est très malheureusement une entité très faible qui n'a aucune capacité réelle d'anticiper, mais c'est lié à quelque chose de très simple. Une grande partie de notre économie est dans l'informel et dans l'informel, il est très difficile que les opérateurs économiques, y compris ceux de l'État qui viennent faire l'inspection, soient en mesure de pouvoir insuffler une certaine rigueur, un certain contrôle. À partir du moment où 80% de l'activité économique en milieu urbain est dans l'informel, il est très difficile pour nous de pouvoir avoir un contrôle quelconque. Et c'est ce qui rend malheureusement les opérateurs publics incapables et impuissants. fonction des choix que nous avons, la justice n'a aucun rôle. La réalité, c'est que l'État devrait être en mesure à la fois d'avoir des partenariats honnêtes et sincères avec les opérateurs économiques qui opèrent pour son compte, mais également être en mesure de pouvoir être l'acteur régulateur sur le marché. Ça sous-entend qu'en fait, ce que l'État doit pouvoir faire, c'est de donner des solutions là où les privés n'arrivent pas à donner des solutions. Et c'est ce qui peut, aujourd'hui, nous donner des réponses. Vous savez, nous avons ici connu un ministre de l'économie qui a réussi à diviser le prix des billets par trois, et aujourd'hui c'est devenu normal et les entreprises qui sont dans l'aéronautique marchent très bien. Et ils se battaient à l'époque pour obtenir qu'une vérité des prix soit appliquée sur la chaîne d'approvisionnement des produits surgelés, et bien entendu la mafia a eu raison de lui et il a été sacrifié sur l'autel du Parlement.
Quelle solution peut-on préconiser ?
La seule solution possible, et c'est très simple, c'est de faire en sorte que nous puissions investir intensément dans la production locale et que nous devenions dépendants de la production locale. En ce moment-là, tout s'exprimera en franc-congolais. Les gens travaillant vont gagner de l'argent et donc l'économie va être prospère et la monnaie congolaise va circuler. Elle va déterminer véritablement le pouvoir d'achat des citoyens. Je pense qu'en dehors de ça, il n'y a pas de solution. Il faut une économie intégrée où nous sommes producteurs des biens que nous consommons. Cela est plus important que de pouvoir faire des importations, y compris des biens dont on n'a vraiment pas du tout besoin. Comme je disais bien, la solution consiste à s'assurer que nous créons des emplois ici. La seule façon de créer des emplois ici, c'est de s'assurer que l'argent congolais que nous gagnons durement soit au bénéfice de l'économie congolaise, que la finance, ça veut dire le secteur bancaire, finance l'économie locale et qu'on s'industrialise localement. C'est la seule façon de pouvoir domestiquer les emplois et quand les gens travaillent et gagnent de l'argent, ils peuvent le dépenser dans l'économie congolaise. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'une économie totalement extravertie. Ça sous-entend qu'en fait, nous gagnons de l'argent en devise en vendant des produits miniers qui sont d'ailleurs épuisables. Même chose avec les produits pétroliers et un peu de bois de forêt. Et ces devises, nous les jetons dans les pays qui nous envoient du poisson, de la farine, du blé et des produits qui vont finir dans les fosses septiques. Et c'est là-bas que nous devons être un peu intelligents. Je le disais récemment dans une conférence, c'est que malgré toute la capacité forestière que nous avons, si jamais nos frontières se fermaient brutalement pendant deux semaines, l'une des choses qui va nous manquer ici, c'est le papier hygiénique. C'est sur ce genre de choses que nous devons être en mesure d'être responsables. Il ne devrait pas être possible que nous manquions ici les produits dont nous avons les matières premières. Et il est donc important que l'État congolais se rende compte de l'intérêt de pouvoir intégrer son économie.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Vous venez de suivre que la justice n'a pas de rôle à jouer dans ces désordres de prix. Enfin, pour clôturer sur le rôle de la justice, on revient encore à Nicolas Kedisimba.
Alors, Nicolas Kedisimba, quelle est la solution à ces problèmes ? La justice aussi devait quand même châtier.
Voilà, la justice doit châtier. Nous venons à la justice. Mais avant qu'on vienne à la justice, les agents des affaires économiques doivent être sanctionnés et ils doivent faire effectivement leur tâche. Les agents des affaires économiques sont des OPJ à compétences restreintes. Donc, leurs compétences se limitent à leur domaine. Ils doivent circuler, ils doivent voir les documents de chaque commerçant. Ils doivent exiger de voir les prix de revient et savoir quand est-ce que ce produit est entré là-bas et à quel prix on peut le vendre. On ne peut pas vendre le prix acheté en 2021, on l'a gardé au stock, on va le vendre aujourd'hui en 2023 pour dire que non, aujourd'hui la conjoncture exige qu'on vende à tel. Même les produits pétroliers, il faut qu'on voit à quelle date le produit est entré pour déterminer le prix de revient.
Voilà, on va conclure. La surenchère des prix sur le marché face à la justice, cause et solution. Comment conclure cette thématique? Et vous, si vous étiez à la place des décideurs, que feriez-vous?
J'ai dit ceci. Il faut que le ministère de l'économie nationale se mobilise et mette sur le marché des hommes qui respectent la loi. Des hommes qui ne travaillent pas seulement pour leur ventre, pour leurs intérêts, mais des hommes qui travaillent pour l'intérêt général. Et nous devons aussi trouver, parce qu'il y a beaucoup de récalcitrants, des sanctions au niveau des responsables des ministères de l'économie nationale. Et nous devons aussi trouver beaucoup de procès verbaux qu'on envoie au parquet pour la hausse illicite des prix, pour l'exercice illicite du commerce, pour le non-affichage des prix et pour la fraude. Quand on prend les biens achetés en 2021, on le vend au prix d'aujourd'hui. C'est une fraude parce que ces biens ont été achetés à un prix bien déterminé. Et même chez les pétroliers, ils ne doivent pas perdre. On doit tenir compte de l'époque à laquelle ils ont acheté. Et on détermine la marge bénéficiaire. Sinon, ce serait de l'escroquerie sur la tête du peuple. Donc, il faut qu'on mette du sérieux sur le plan judiciaire, sur le plan économique.
La surenchère des prix de biens de consommation sur le marché face à la justice. Nous venons d'en parler dans le magazine de promotion de vos droits et devoirs. Droits et citoyenneté est donc terminé. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et citoyenneté.
Droits
et citoyenneté.